Fêtes et culture juive avec Raïm Slonim sur le 97.1.
Toutes et à tous, voilà, nous sommes dans cette période. On a bien commencé la parasha, donc la Torah, à relire la Torah depuis une semaine. Et voilà, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième parasha. Tout le monde connaît cette parasha, pas seulement dans la communauté juive, on apprend ça même comme quelque chose d'amusant ou non dans les écoles. Tout le monde connaît les chants des chats, des rats et des éléphants, il manquait personne. Donc c'est une histoire, je ne sais pas si on peut dire mais en tout cas c'est une histoire. Une histoire que, contrairement à certaines qui pensent, il y a beaucoup de messages pour la vie. Ça veut dire que, comme toute chose dans la Torah, c'est pas seulement une histoire, il y a un message pour toute période. Et pour même qu'on ne passe pas exactement la même situation, mais il y a des choses qui ressemblent, la Torah nous dit comment il faut réagir. Donc alors là aussi on va voir, puisqu'il y a beaucoup de messages, ce qu'on peut apprendre de ce déluge, comment, qu'est-ce qu'on réagit quand quelqu'un qui a un déluge personnel, et on a tous des petits problèmes par-ci et par-là, comment on réagit devant les problèmes spirituels, matériels. On peut dire que toute période, toute génération, il y avait ces problèmes et il faudrait trouver des solutions pour les problèmes de cette période, de ce temps. Mais en général, on peut l'appeler déluge. Déluge, c'est quelque chose. Donc, alors, quand on parle de l'histoire même, alors, il s'agit de l'eau qui nous dépasse, parce qu'on peut noyer dans des déluges, en fait, même dans l'eau qui est plus forte. On a des moyens à surmonter les épreuves. On a un moyen que même lorsqu'on est dans l'eau, on peut quand même flotter sur l'eau. Il y a des solutions. Mais il y a des moments que c'est tellement puissant qu'il n'y a pas de solution. Visiblement, il n'y a pas de solution. Et voilà, alors à ce moment-là, on cherche des solutions. Donc tout d'abord, on va prendre cette histoire de déluge comme un drame qui se répète par-ci et par-là, et des solutions qu'on essaie de trouver. Encore une fois, chaque personne, en tout cas très souvent, les gens passent un moment qui, ça, ce moment, cette situation les dépasse, on ne sait pas comment faire. Donc alors, pour savoir comment faire, il faut étudier bien cette paracha, et on apprend justement comment faire. Alors tout d'abord, on va revenir à l'histoire lui-même. Dans cette paracha, Dieu a créé un monde. Le monde, Dieu l'a donné, le libre arbitre à l'homme. Bien sûr qu'on a beaucoup de questions sur cette notion de libre arbitre. Pourquoi et comment, mais on va... Chaque partie, chaque idée a besoin de se profondir. Mais en tout cas, c'est comme ça l'histoire que Dieu a créé un monde. Et il donne à l'homme la possibilité de choisir le bien et le mal. Et finalement, le monde, quelques générations après, il est rompu. Il n'y a que des mal, que des problèmes, que, comme il est marqué ici, que des Hamas. Hamas, ça veut dire des violences. Et c'est invivable. Il y a quelques personnes par-ci et par-là, surtout Noach, que lui, comme son nom porte, c'est celui qui amène l'apaisement. Mais ça ne suffit pas, parce que le monde autour de lui, ça suffit de lui regarder pour voir la bonté, la gentillesse, la justice. Mais le monde autour de lui n'était pas influencé par lui. Donc alors Dieu il décide de détruire le monde pour recommencer. Et dans l'histoire, on trouve cette histoire, dans cette idée que Dieu il demande à Noach de construire un bateau. Ça a duré très longtemps. D'ailleurs, on dit ce que la Torah nous dit, que la vie humaine avant le déluge était beaucoup plus longue qu'après le déluge. C'est la Torah nous le dit. Okay. De temps en temps, on parle comment c'est possible au niveau scientifique. Mais en tout cas, là aussi, il faut revenir. Mais la Torah, selon la Torah, Dieu il a changé le système du monde. Il y avait avant le déluge et il y avait après le déluge. Avant le déluge, la vie humaine était très très longue. Après le déluge, on voit que ça détruit, en fait, ça diminue d'une façon dramatique, à tel point que la vie d'Abraham était de 147 ans, bien aucun rapport avec ce que c'était avant. Et après, ça a diminué aussi jusqu'à le moment où on arrivait en tranche d'années qu'on a aujourd'hui. Alors, avant le déluge, donc, le monde était mauvais. Les gens se comportaient d'une façon très mauvaise. C'était invivable, comme la Torah nous indique. Donc, Dieu, il demande de construire ce bateau. Et il lui a donné longtemps pour que les gens puissent retourner, pour que les gens changent, mais ils n'ont pas changé. Donc, le jour arrive où ils rentrent dans ce bateau. Et il demande qu'il y aura des échantillons, en fait, des représentants de tout animal pour garder la race animale une fois le déluge passé. Et il y a beaucoup de détails. Ce qui est intéressant dans cette paracha, et qu'on trouve nulle part dans la Torah, qu'il y a beaucoup de précisions. Quelle date exactement, même si on parle d'une période très éloignée, et pourtant la Torah nous donne la date. Quel jour du mois ça commençait, quel jour du mois ça se terminait, et à tel moment s'est passé telle chose, à tel moment s'est passé telle chose, et ça c'est déjà quelque chose qui est rare parce que dans la Torah on ne trouve pas tellement de précisions. Ensuite, lorsque Dieu il demande à Noach donc de rentrer une fois que le moment est arrivé, Dieu c'est imminent le déluge, alors Dieu il demande à Noach de rentrer donc dans cette teva, et il a marqué Bo et la teva, rentre dans ce bateau, tout simplement pour être sauvé, lui il doit être sauvé. Et il reste là-bas, il s'occupe des animaux, et ensuite au bout d'un an entier, de 365 jours, comme il est marqué dans la Torah elle précise que ça commence à telle date, ça se termine telle date, donc on a une année solaire entière, 365 jours. Au bout de cette période, la Terre est déjà sèche après le déluge. Et là, il reçoit un message de Tseminativa, sort de l'arche. Alors, il y a beaucoup de significations chassidiques dans cette notion. On va faire un petit tour. Tout d'abord, comment on regarde le monde? Alors, effectivement, on regarde le monde comme un déluge. Alors, si on est dans un monde qui est déluge, il y a des solutions. Il y a des solutions, bien des gens qui ignorent le problème, donc finalement ils sont portés par ce déluge. Il y a des gens qui savent, connaissent les dangers. À ce moment-là, ils doivent trouver un sort de bateau pour être sauvés. Ça veut dire on est dans le système de déluge, et pourtant nous on a un système à part qui nous permet de flotter. Donc au contraire, la chassidoute développe encore une idée que non seulement qu'on ne tombe pas, on surmonte les épreuves. Mais on va revenir à ça. Il y a le Baal Shem Tov qui dit que lorsque le Baal Shem Tov il compare le déluge à notre vie, ça veut dire qu'on a une vie qui doit être correcte, mais autour de nous, il y a une autre vie. Une vie autour de nous, on est entouré par des gens et par une situation et par des mouvements et par des idéologies que nous, on considère comme un déluge. Parce que les gens, ils tentaient à suivre les mouvements sans toujours réfléchir, sans, bien, je pense comme la majorité, ce qui arrive très souvent. Ou bien, on est entouré d'un monde qui, on le considère comme un déluge. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut vivre dans ce monde. Dieu nous a créés dans ce monde. Alors il faut créer des systèmes, un système qui s'appelle déluge. Et pardon, un système qui s'appelle bateau. Et dans ce système, on peut résister contre l'eau qui est autour de nous. Et donc le Baal Shem Tov le dit, il manquait donc ici, Bo et la Teva vient dans le bateau. Mais le mot Teva en hébreu va dire aussi le mot. Les paroles. Ça veut dire qu'il y a les paroles de la Torah et de la tefila, de la prière. Ça veut dire que d'une part, autour de nous, il y a un monde dangereux, Mais de notre part, nous, on crée un système, ou bien nous, on suit un système, que dans cet univers, nous, on a notre système de monde de Torah et monde de Tfila. Donc, alors, c'est ça qui nous donne la force, que même que le monde autour de nous, il est très violent, et pourtant, on est dans ce monde, c'est pas qu'on vit pas dans ce monde, et non seulement qu'on est dans ce monde, au contraire, on flotte sur le problème. Ça veut dire non seulement qu'on n'est pas touché par le problème, mais on grandit grâce au problème. Donc ça, c'est un sujet peut-être qu'il faut développer encore plus, mais je vais essayer d'aller plus loin. Ensuite, le moment est arrivé où on nous dit dans la Torah, sors de la Teva, sors de l'Arche. Et selon ces mêmes bases qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut rentrer dans un système, à l'intérieur du système, mais il faut, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est qu'on sort vers ce monde. Dès qu'on a la possibilité, alors bien sûr que le danger, c'est un danger, personne n'aime qu'il est dans un danger, il s'agit de nos enfants, on essaie de les éloigner des dangers, parce que qui peut être sûr qu'ils résistent devant les problèmes, mais quand même, ce n'est pas l'idéal. On est faible, c'est pour ça qu'il faut créer un système dans un autre système, mais de notre part, le but, c'est qu'on puisse vivre dans ce monde et influencer les autres, et pourtant ne pas être influencé par les autres. Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe. Donc il y a des communautés à l'intérieur de la communauté juive qui font comme ça, ils se ferment à l'intérieur de notre monde, puisque le monde est dangereux, donc ils font un système de coupure, un système de ghetto, ils ont bien raison, parce qu'il faut bien protéger le nôtre. Donc, on n'a pas le choix, le monde autour de nous, il n'est pas ce qu'on aimerait bien être. Donc, alors, on crée des communautés dans la communauté. Mais selon la vision un petit peu chassidique, c'est vrai que parfois, on est obligé de passer par là. Mais ce n'est pas toujours l'idéal, parce que Dieu, il a créé un monde qu'il faut s'occuper de ce monde. Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'a pas le choix, on crée un système dans un autre système. Mais quand on a d'autres choix, alors à ce moment-là, le contraire, il faut sortir dehors et influencer le monde. Et ce n'est pas un paradoxe. En même temps, on a notre système. Mais notre système, il est d'une part à l'intérieur d'un autre système. Ça veut dire nous, on étudie, nous, on prie. Nous, on a notre système dans le système. Mais en même temps, on n'est pas enfermé. Ça, c'est l'idéal. Encore, pas tout le monde sont capables de le faire. Mais ça, c'est l'idéal. Donc, alors, on a déjà une signification de ce que c'est, ce que ça veut dire rentrer dans la Teva, donc on a expliqué par rentrer dans un autre univers, dans le même univers. Donc on est dans l'univers où il y a des déluges et pourtant moi je crée un autre univers. Et grâce à ça je suis sauvé, et non seulement que je suis sauvé, je flotte aussi. Mais d'une autre part, il faut, et quand c'est possible, parce qu'il y a une période où on peut dire non, c'est pas possible, le danger est imminent et le danger est très grand, on peut pas, on est obligé de couper. Mais ce n'est pas l'idéal, et c'est pour ça que Dieu il demande tout de suite à la fin des déluges, en tout cas au niveau symbolique, ça veut dire ça, que dès que tu as la possibilité de retourner, de reconstruire ce monde, c'est ton devoir. C'est pour ça que Dieu il dit « Tseh minateva, sors maintenant de cette notion, de cette idée, de cet univers, et fais d'autres choses ». Maintenant, on peut dire que ça, c'est l'argument que le rabbi utilisait lorsque, bien sûr, que autrefois la communauté juive était de cette manière qu'il y avait des ghettos, mais ça, c'était imposé à nous. C'était comme ça parce qu'on nous a pas donné le choix. Mais aujourd'hui, on est dans un autre monde où bien on peut discuter, on peut en fait être d'accord ou non. Est-ce qu'on est obligé d'être à part ou non, c'est un autre système, ça c'est clair. Mais l'idéal, c'est, donc selon la vision chassidique, c'est vrai que parfois quand on doit garder notre identité, on n'a pas le choix que couper avec les autres, alors il faut le faire. Mais il y a d'autres solutions. Donc on reste fort, on reste avec nos idées et pourtant on vit dans ce monde. Et c'est ça un petit peu l'idée de Tzemina Teva, sort de l'arche. Sort de l'arche pour s'occuper, pour t'occuper et pour être présent dans ce monde. Et pourtant, tu gardes quand même ce système d'être dans l'arche. Maintenant, il y a d'autres significations dans la Chassidut. On explique qu'il y a dans le cantique des cantiques, il y a cette phrase qui dit Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava ou neharot lo yishtefua. La Chassidut développe cette idée en expliquant le rapport avec le déluge. Alors on dit comme ça, Maim Rabim, comme ça il est marqué dans le contexte de contexte, pour dire, parce qu'on sait que le contexte de contexte, il y a des images, il faut comprendre ce que c'est l'image avec la notion d'amour entre nous et Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas. On est dans un monde que la relation dans tout domaine, c'est pas évident. Et donc alors là aussi, il y a cette image qu'il y a Maim Rabim. Maim Rabim, ça veut dire il y a de l'eau puissant. Et cette eau puissant, parfois, il menace. Et donc on dit que c'est haut puissant et pourtant il ne peut pas effacer l'amour. On a l'amour qu'on a envers Dieu, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Il y a dans certains domaines deux personnes qui sont très très attachées. Alors on peut dire que même l'eau puissant qui passe entre eux, cette image ne peut pas effacer l'amour. Et la rivière, il ne peut pas l'éteint. Dans la Chassidut, on explique les deux notions, mais on va rester avec l'idée plus globale pour dire que on reste un petit peu dans la même idée, mais un petit peu différemment. Pour dire que le monde autour de nous, c'est de l'eau puissante. Et avec les problèmes qu'on a dans notre monde, par exemple, on a des problèmes à gagner notre vie. Et parfois, les problèmes sont très difficiles. Et parfois, ça prend la tête, si on peut dire, ou bien ça nous bloque tellement parce qu'on fait des soucis, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc alors normalement, quelqu'un qui est trop dans les affaires, il fait trop de soucis dans les affaires parce qu'il a des vrais soucis à régler, donc ça peut aller sur d'autres domaines, ça veut dire qu'il s'occupe entièrement dans ses affaires. Et par contre, il est pas dans d'autres domaines, les autres choses qu'il doit s'occuper, qu'il doit s'intéresser, je trouve pas les mots, ça veut dire que quelque part il est bloqué. Dans ce domaine, je ne peux pas parce que je m'occupe tout le temps, je réfléchis qu'est-ce que je vais faire, comment faire, et la vie n'est pas facile. Alors c'est ça un petit peu l'idée de « Maim rabim lo yochlo lechabot et ahava ». Ça veut dire qu'on dit que même si on est dans un monde où on nous demande de faire des efforts, de chercher des solutions pour des problèmes, mais à tel point qu'on peut carrément, ça peut nous affecter dans d'autres domaines qu'on n'a pas le temps d'étudier, en tout cas la tête, elle est trop prise. Et donc, on ne peut pas étudier, on ne peut pas faire ce qu'il faut. Quand même, ces cantiques de cantiques témoignent que quand même, l'amour profond qu'on a, il reste. Même si on est dans un système, encore c'est un système de déluge, où on est affecté par l'eau puissante, et cette fois-ci, on explique l'eau puissante, c'est le tir d'eau par l'instant, ça veut dire le souci qu'on a par rapport à notre gagne-pain, et pourtant, la Torah, le contexte de contexte, il dit que même ça, et même si on est plongé là-dedans, mais ça ne peut pas effacer l'amour propre qu'on a envers le judaïsme, envers Dieu. Maintenant, on va aller plus loin. Il y a beaucoup d'autres symboles, mais on va aller plus loin. Et là, il y a quelque chose encore différent. C'est que on est dans un monde, comme on a dit, comme il est marqué dans les deux premiers parachats de la Torah, il y a deux choses qui ressemblent. La première parasha, dans la première parasha, on parle de que Dieu a créé le monde. Et quelque part, la deuxième parasha aussi, on parle d'une nouvelle création. Ça veut dire que tout ce qui était avant était détruit
Et là, d'un coup, il y a une nouvelle création. Alors, c'est quoi la différence entre la première création et la deuxième création? La première création, ça dure pas. Ça dure, selon la Torah, tant d'années, 1656 ans. Et après, il y a le déluge, donc ça dure pas. Encore, je connais, en fait, et encore, il faut revenir sur l'âge du monde, mais en tout cas, pas aujourd'hui. Alors, après, Dieu, le monde que Dieu a créé ne dure pas. Dieu, il doit détruire pour reconstruire. Et cette fois-ci, après le déluge, Dieu, il promet qu'il ne va plus amener le déluge pour détruire le monde. Et il donne même un signe. Ça veut dire quelque chose, il change la nature, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à là. Ça, c'est l'arc-en-ciel. Que Dieu, il dit à Noé, je te donne un signe, parce qu'en vérité, comme on a dit tout à l'heure, après le déluge, Noé, il n'avait pas envie de recommencer le monde. Et c'était une idée générale, à quoi ça sert de construire pour détruire ensuite. Donc, il n'avait pas envie, parfois, enfin, non seulement qu'on n'a pas envie, on n'a pas les mains, on n'a pas le cœur, de recommencer pour que ce soit à nouveau détruit. Qui peut nous assurer que cette fois-ci, l'humanité, elle va être bonne, elle va être gentille, elle va comprendre. Et cette fois-ci, Dieu, il promet à Noé que non, il ne va plus jamais détruire le monde entier. Et il donne donc ce signe, il dit que tu vois ce qui n'existait pas avant, même si c'est un acte naturel. Là aussi, c'est expliqué dans différents endroits. Qu'est-ce que c'est? Et c'est un signe, mais en tout cas, c'est un signe qu'il montre, tu vois, l'arc-en-ciel, c'est un signe que je ne vais plus détruire le monde. Quand même, pour dire un petit peu de ce que signifie l'arc-en-ciel, la Chassidut explique à différents endroits, mais on explique que normalement, on peut imaginer cette image que quand il fait sombre, ça représente une idée de catastrophe. Il fait sombre. Il fait gris, il fait sombre, il fait très gris. Donc, au niveau symbolique, ça va dire que le monde est sombre. Ça va pas. Et pourtant, même sur ce système, il y a des lumières qui, en fait, il peut être un réceptacle de lumières. Et donc, sur ce monde obscur, et c'est sur ce monde, comme on a dit tout à l'heure, que des nuages, ça veut dire que ça va pas, c'est sombre. Dans ce monde, il y a quand même, on peut voir la lumière. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi sombre que ça. Et le symbole, qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais juste lancer, le symbole, c'est qu'il y a une autre vision maintenant du monde. Si jusque-là, on a considéré comme le monde, quand les gens qui ne peuvent pas revenir en arrière, les gens, il y a certains domaines que quand on fait, on lance, ou bien lorsqu'on plonge dans un problème, alors on ne peut que plonger encore et encore. Mais Dieu, il montre une nouvelle notion dans le monde, qu'à partir de là, il y a quand même un étincelle, qu'à partir de cette étincelle, on peut trouver la lumière et le monde, il peut se rattraper. Alors, c'est un sujet qui est très large, mais en tout cas, ça c'est clair que c'est une autre vision du monde, que le monde il peut se rattraper. Et selon la Chassidut, c'est ça qui a changé entre la première fois et la deuxième fois. La première fois, Dieu, il a créé un monde. Mais l'homme, il faisait pas partie. Ça veut dire, il n'a pas participé à l'effort. C'est comme, on peut donner un exemple de quelqu'un qu'on lui donne, ses parents lui donnent tout, et lui, il n'a pas l'habitude de faire. Il n'a pas d'habitude d'effort. Alors, il se dégrade, il se dégrade, il se dégrade. Jusqu'à le moment où on décide, c'est plus bon, on ne peut plus continuer comme ça. Mais par contre, quand on a habitué nos enfants aux notions de travail, à agir, alors à ce moment-là, même s'il a tombé très, très bas, il a toujours la possibilité de se rattraper. On voit dans notre monde que parfois, il y a des gens qu'ils ont tombé très très fort et pourtant ils ont compris le message. Et lorsqu'ils montent, ils montent très très haut. Et ça, c'est parmi les symboles de ce déluge. Et dans le Chassidut, on explique qu'il est marqué comme ça, que Dieu il a deux casquettes, au moins. En fait, il y a plus de casquettes, si on peut dire. La notion de casquette, ça veut dire qu'il se comporte de différentes manières. Il y a une manière que Dieu il se comporte, que le nom de ce Dieu, c'est Elohim. Il y a une autre manière que Dieu se comporte, qu'à ce moment-là, on utilise le, je ne me rappelle pas si ça s'appelle tétragramme, en tout cas le nom qu'on appelle Yudke Vavke, c'est un autre nom. Le nom d'Elohim, c'est comment dire, Dieu, il est présenté, il se révèle dans ce monde d'une façon limitée, parce que Dieu a créé les limites. Et donc, même lorsque Dieu il se révèle dans ce monde, c'est d'une façon limitée. Le nom de Yudke Vavke, par contre, montre une idée qu'on peut dépasser les limites. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi que même lorsqu'on a l'impression qu'on est très bas, on est très limité, on peut toujours rattraper. Et ça, c'est le travail de l'homme. C'est pour ça qu'il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on a dit dans la prière à la fin de Yom Kippour, on a cité 7, selon l'habitude de phrase, même 14, mais en tout cas, c'est l'idée de 7, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. On répète plusieurs fois dans la prière. Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim. Pardon pour la façon comment je chantais, mais en tout cas, c'est des choses qu'on répétait souvent. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu, il est Dieu, ça veut dire quoi? Alors il y a, là aussi, il y a plusieurs, quelques manières d'expliquer. Comme la Chassidoute explique, il y a une manière qu'on voit par le haut, il y a une manière qu'on voit par le bas. Mais d'une façon plus générale, on dit comme ça, qu'Elohim, c'est une notion de limite. Donc Dieu, il a créé les limites et il agit avec les limites. Hashem ou Elohim, c'est la notion de non-limite. Donc alors même lorsqu'on est dans les limites, on peut arriver et dépasser les limites. Ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi, si on va dire comme ça, parler des paroles assez simples, c'est que parfois on a l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est trop compliqué. On est très limité, et c'est vrai qu'on est très limité. Et pourtant, on dit Hashem ou Elohim. Ça veut dire que Dieu il a créé les limites. Mais lui, il n'est pas limité. Il nous a donné la possibilité de dépasser la limite. Alors, c'est vrai que on dépasse les limites, ça ne veut pas dire qu'on détruit les limites. On est dans un monde que son identité, c'est la notion des limites. Mais néanmoins, en tout cas, on peut comprendre que chaque fois, on a la possibilité de dépasser les limites. En fait, chaque fois, il faut comprendre, ça dépend aussi qu'est-ce que ça veut dire foi. Qu'est-ce que ça veut dire foi? Qu'est-ce que ça veut dire foi? Mais c'est comme ça. Il y a une notion chassidique qui dit le Khatrila Riber. Ça veut dire que le Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Chabad, il avait l'habitude de dire que tout le monde dise que lorsqu'on n'arrive pas à faire par le schéma normal, on dépasse les limites. Et moi, je dis qu'on commence en dépassant les limites. Ça veut dire voir large. Il y a des gens qui voient très très limité. Il y a des gens qui voient très large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à ce moment-là, bien, je veux dépenser sans réfléchir. Il faut donner quand même des limites à cette idée. C'est pas, il faut prendre une fois de comprendre quand est-ce que oui et quand est-ce que non. Mais l'idée d'Hashem ou Elohim, ça veut dire que donne. C'est pas qu'on efface les limites. Ça veut dire que même les limites, il y a une notion de nos limites. En tout cas, pour revenir à notre sujet, c'est que l'idée, c'est que les premières créations qu'il y a avec Parashat Bereshit, il y a avec la notion de limite. Donc, on est limité. Alors, à ce moment-là, parfois, lorsqu'on est plongé dans les problèmes, on est là okay, pour plonger encore et encore. Mais l'idée de la deuxième création, Dieu il a donné une nouvelle notion dans ce monde qui donne les tâches limitées, il y a les tâches non limitées. C'est ça l'idée d'un schéma Elohim. Et c'est ça l'idée de messianique aussi. Ça veut dire qu'on dépasse les limites. C'est pas qu'on détruit les limites, c'est dans les limites même, il y a une tâche non limite. Bien, même si qu'il y a beaucoup, comme on a dit tout à l'heure, que cette paracha elle est très très riche, mais après tout, il y a, on a parlé de quelques idées. Alors, bon courage pour ce travail pour nous tous, parce qu'on est dans un monde de travail, il faut savoir aller battre, en fait, d'une façon positive, de contre les problèmes, et rendre notre monde autour de nous, il faut le rendre un monde de bien, un monde positif. Merci et à la semaine prochaine.
Fêtes et culture juive. avec Reims Le Nîmes sur le 97.1.